18-19, le magazine.
Nous reprenons, chers auditeurs, notre entretien avec Anne-Marie. Ce disque, d'abord, il vient du Mexique. Et cette danse, c'est la danse des vieux. En réalité, les gens dansent avec un masque sur la tête, et à la fin de la danse, les gens lèvent leur masque. Et aux surprises, ce ne sont pas forcément les plus anciens qui dansent les plus mal et les moins rapides. Ce qui est une manière de nous rappeler ce que Anne-Marie nous disait tout à l'heure sur la primauté du parcours plus que de l'âge. Anne-Marie a mis en valeur, à la fin de l'entretien, ce premier élément du parcours, le second qui est la protection sociale, et puis le troisième, nous avions commencé à en parler, c'est ce nouveau pacte générationnel. Anne-Marie, vous mentionnez quatre dimensions possibles à ce pacte. Pouvons-nous maintenant parler du pacte ?
Bien sûr. C'est pour moi l'urgence absolue dans notre société, parce que de la refondation de ce pacte, d'un pacte équilibré et équitable entre les générations, dépend largement notre capacité à vivre ensemble, à continuer à faire société. Et nous en avons grand besoin. Donc il y a urgence, car aujourd'hui, tout le monde est persuadé que ce pacte est en miettes. Et donc, je plaide pour un New Deal générationnel. Voilà. Et quels seraient les contours de ce... Un New Deal générationnel, pourquoi d'abord ? Parce que les réformes successives des retraites ont creusé l'inégalité entre les générations, et qu'elles ont repoussé l'âge de la retraite, abaissé le rendement des pensions pour les actifs qui sont les futurs retraités. Mais en échange, peu de compensations leur ont été accordées en contrepartie en matière de validation des années de formation pour la retraite, par exemple, pour comptabiliser leur droit à retraite, etc. Donc, on peut dire que ce qui s'est passé dans toutes ces réformes successives, c'est que la focale a été mise sur la soutenabilité financière, l'équilibre financier du régime, est-ce qu'il peut durer, et on a oublié derrière sa soutenabilité sociale, je dirais. Dans les années 70-80, la retraite était un rêve de jeunesse, au sens où les jeunes disaient encore plus, de façon plus marquée que leurs aînés, que vivement la retraite, vivement qu'on y arrive, que c'était formidable la retraite, c'était le rêve. Et en contraste, les aînés disaient oui, mais il y a moins de revenus, il y a moins de ressources, et puis on a une moindre santé, etc. Donc, aujourd'hui, les jeunes disent, quand on les interroge, de manière unanime et dans tous les sondages, la retraite, j'en aurais pas. Donc on voit bien que dans un système de retraite par répartition, c'est extrêmement grave, parce que précisément ce sont les actifs qui payent les retraites. Et si cette chaîne de solidarité de long terme, parce que si les actifs payent les retraites des aînés, c'est parce qu'ils sont convaincus que les jeunes derrière vont payer quand ils seront à la retraite. Et si cette longue chaîne de solidarité se défait, eh bien, un système de retraite par répartition ne peut plus tenir. Donc on voit bien l'enjeu, et l'enjeu il est même plus large que ça, parce que c'est un problème majeur de cohésion sociale entre les générations. Donc, nous sommes partis d'un pacte, qui était implicite, je l'accorde, de solidarité en 45, mais on n'y fait plus beaucoup référence alors qu'il est, il existait ce pacte. En quoi il consistait ? Et ce que je voudrais souligner, c'est qu'il était mutuellement profitable pour les trois générations coexistantes. Aux plus âgés, parce qu'ils étaient les plus pauvres, les plus pauvres de la nation, on accorde un droit à la retraite, donc un droit à pension, mais il faut remarquer qu'en 45 et jusque dans les années 60, ce droit à retraite, ça, il s'agissait de, d'une pension de quelques années. La retraite se prenait à 65 ans et l'espérance de vie à la naissance était 68 ans. Donc on voit bien que c'était quelques années. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, la durée de la retraite, c'est 28 ans en moyenne. Donc on est passé, je dirais, à une autre dimension. Alors, en échange de ce droit à la retraite, nouveau, fondé en 45, eh bien, les jeunes adultes et les adultes, après une très brève période d'éducation, se voyaient accorder un emploi de manière stable, de manière durable. Les chiffres de l'OCDE sont évocateurs à cet égard. La vie, dans les années 60, la vie de travail durait, l'essentiel de la vie adulte, a duré 50 ans, sur 68 ans, en gros, d'espérance de vie. Donc, 50 ans sur 68 ans, les 18 ans restants, c'était une brève formation et une brève retraite. Donc, le pacte qui était ainsi scellé entre ces trois générations coexistantes, eh bien, on voit bien qu'il portait sur l'éducation, l'emploi et la retraite. Car les adultes se réservaient l'emploi de manière stable et durable, et avec la protection sociale qui était attachée à cet emploi pour lui et pour sa famille. Et cet emploi permettait aux adultes de financer l'éducation des enfants, l'éducation de leurs enfants, la protection sociale de la famille et les pensions pour les plus âgés. C'est un financement socialisé, obligatoire, voilà. Mais les mutations du travail, les mutations de la démographie, avec les quatre générations, ont bouleversé ce pacte et provoqué de multiples fractures générationnelles et d'importants déficits d'équité, encore aggravés par l'évocation que j'ai faite des réformes successives des retraites qui ont absolument sous-estimé ou mésestimé ce pacte générationnel qui était le ciment de notre système de retraite par répartition. Alors maintenant, comment refonder ce New Deal générationnel? Comment refonder ce pacte? Je crois qu'il faut revenir à ce pacte mutuellement profitable. Donc instaurer un système de vigilance sur l'équité et la justice sociale entre générations qui s'opère et par la fiscalité et par les dépenses sociales en matière non seulement de retraite, mais d'activité, d'éducation. Et puis il y a une quatrième dimension qui vient se greffer désormais avec notre société de longue vie, je dirais, c'est le care, c'est prendre soin d'eux, parce que, évidemment, l'allongement de la vie fait que, dans les dernières années de la vie, certains ont besoin, évidemment, de soins. Revenir à des échanges mutuellement profitable, ça veut dire que les contributions apportées par chaque génération sur l'ensemble de leur cours de vie doivent s'équilibrer avec les rétributions qu'ils en recevront in fine. Donc c'est sur cette base qu'il faut construire un New Deal générationnel. Et j'aimerais prendre quelques exemples pour illustrer un peu ce qui est peut-être un peu abstrait. Par exemple, on pourrait veiller à ce que les dépenses publiques de retraite soient liées aux dépenses publiques d'éducation, de façon à ce qu'on garde un équilibre entre les dépenses retraite, les dépenses de pension de retraite qui augmentent évidemment avec le mais qui vont être maintenant à peu près stabilisées à 14% du produit intérieur brut, donc de la richesse produite, dans le pays. Et donc, mais qu'on lie ces dépenses publiques de retraite aux dépenses publiques d'éducation. Et nous sommes loin de consacrer 14% à l'éducation, et notamment l'éducation tout au long de la vie. Donc on pourrait, par exemple, investir en formation pour les jeunes et les âges médians, en échange de quoi, et ça ce serait un deal mutuellement profitable, en échange de quoi il y aurait un report de l'âge du départ en retraite pour ces générations. Là, il y a des gains équilibrés. Et on pourrait aussi, et ce n'est pas ce qui a été fait, on le sait, faire davantage participer le patrimoine des seniors au financement de la protection sociale. Par exemple, on a récemment augmenté d'1,7 la CSG pour les retraités, qui a été non compensée. On sait combien cette mesure a été mal vécue par les retraités, parce qu'elle représente un effort considérable, mais en même temps, elle n'apparaît pas mutuellement profitable, puisque c'est pour en solidarité avec les actifs. Mais les actifs, il y a le monde des actifs est extraordinairement hétérogène et on ne voit pas pourquoi les retraités devraient exprimer cette solidarité générale à l'égard des actifs. Par contre, si on avait dit ce point 7 de CSG, on va le faire aller vers une assurance soins longue durée de type 5e risque pour le grand âge, comme nous sommes maintenant à 4 générations, et que si ces jeunes retraités ont en même temps des parents âgés souvent à charge parce que l'EHPAD c'est extrêmement coûteux, etc. La construction d'un cinquième risque ou d'une assurance soins longue durée à la hauteur des besoins ferait que il serait mutuellement profitable pour eux de payer plus pour assurer les vieux jours de leurs parents et en même temps se libérer de l'angoisse de financement de leurs vieux jours. Donc, en fait, c'est aussi, ça les libérerait de ce qu'on appelle cette patrimonialisation croissante. Dans mon livre, l'économiste André Masson en parle largement, parce qu'on voit une accumulation. Parce que cette génération de jeunes retraités hérite aussi de ses parents. C'est elle qui hérite, c'est plus les plus jeunes générations. Dans ce système à 4 générations, c'est les jeunes retraités qui héritent, ou ceux en fin d'activité, qui héritent de leurs vieux parents. Donc, ils se trouvent concentrés le patrimoine, alors que, justement, les jeunes peinent à avoir accès à un logement aujourd'hui, à financer leurs projets. Et donc, c'est très contre-productif et peu équilibré entre les générations, peu bénéfique. Par contre, s'ils pouvaient être assurés sur leurs vieux jours, peut-être qu'ils concentreraient moins le patrimoine sur de l'épargne et qu'ils libéreraient vers des donations aux plus jeunes et en même temps, on pourrait imaginer de liquéfier le patrimoine immobilier des seniors pour permettre aux jeunes de financer leurs projets, etc. Donc, vous voyez, des choses qui soient des deals, des new deals mutuellement profitables aux générations coexistantes. Voilà ce que j'entends par refonder ce pacte de solidarité et remettre de l'équité et de la justice dans ces échanges entre les générations.
Effectivement, Anne-Marie, ce qui est très très intéressant, c'est que non seulement votre livre analyse la situation, mais propose des pistes, des recommandations, et en particulier tout ce qui touche ce pacte générationnel est quand même relativement développé et passionnant, et vous venez vous-même de nous montrer quelques points de repère, le passage de 3 à 4 générations, cette notion de tout au long de la vie, autant d'éléments que vous traduisez concrètement dans quelques exemples, montrent ce qui est en train de se passer. C'est quand même impressionnant. L'allongement de la vie, bien plus que le transhumanisme, est un nouvel horizon.
Absolument, non, non, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est justement sur ce sujet qui est approché très, de manière très passionnelle. Alors, il y a ceux, et on voit bien aujourd'hui, il y a ceux qui disent, oh là là, une société de vieux, c'est épouvantable, ça va coûter cher, les jeunes vont devoir payer les dettes, etc. Donc c'est la version pessimiste, et puis on a la version optimiste, c'est le rêve faustien de l'éternelle jeunesse, et on a l'homme augmenté, etc., qui va jusqu'à l'utopie transhumaniste. Ce qu'on a essayé de faire, c'est quelque chose de très... d'objectiver, au contraire, cette longévité, de montrer tous ces impacts multiples, et y compris sur les jeunes, et de montrer qu'on ne peut pas... qu'on doit réfléchir et l'intérêt du concept de longévité, ça a été ça pour moi, c'était décloisonner et déconstruire les approches traditionnelles du vieillissement pour proposer une autre vision et surtout ce qui me tient à cœur, c'est que cette longévité c'est un gain formidable, c'est un espoir formidable, et ce qui me frappe, c'est qu'en la réduisant au seul vieillissement, au lieu, on ne pense qu'au risque que ça représente et au coût, bien sûr, que ça induit, et on ne sait pas, on ne pense même pas comment optimiser et valoriser ces gains et ces ressources nouvelles que procure une vie plus longue. Or, il y a une marge incroyable. On entend parler de la silver economy. Mais ça, c'est un tout petit bout, la silver economy. En plus, elle est conçue plutôt pour répondre à ces nouveaux consommateurs que sont les personnes âgées. Mais c'est pas ça. L'allongement de la vie, c'est des gens en meilleure santé plus longtemps, c'est des gens dynamiques, c'est du vieillissement actif. Et il faut optimiser, ça veut dire que la société sait utiliser ces nouvelles forces et ce nouveau potentiel. Or, là, on est dans un impensé total des politiques publiques.
Anne-Marie, merci beaucoup, parce que je crois qu'on pourrait encore, pendant des heures et des heures, parler avec vous. Je crois que nous sommes allés à l'essentiel. Et chers auditeurs, je vous ai rappelé au début de l'émission, et nous allons finir cette émission en écoutant un autre morceau de musique, lentement, qui va arriver à l'horizon. Je vous ai dit, lisez ce livre, et si vous ne pouvez pas l'acheter, allez le demander à la médiathèque, car il est remarquable. Allongement de la vie, quel défi, quelle politique, édition La Découverte, sous la direction d'Anne-Marie Guillemard. Anne-Marie, merci énormément, et nous aurons l'occasion, je l'espère, sous des formes différentes, de reprendre cette discussion. L'ampleur des mutations liées à cet allongement de la vie, vous l'avez compris, chers auditeurs, reste largement méconnue. C'est pourquoi nous avons besoin d'approches pluridisciplinaires, comme celle qu'a conduite Anne-Marie Guillemard. Nous avons besoin d'approches prospectives. Nous avons besoin de témoignages de ces aventuriers qui s'avancent dans l'âge, mais surtout par leur parcours, pour concevoir une autre vie. Car il ne s'agit pas seulement de l'allongement de la vie, mais de l'allongement de la vie pour bien vivre. Voilà, chers auditeurs, un petit peu ce thème fabuleux qui, pour moi, va marquer le 21e siècle. Comme l'a très bien dit Anne-Marie, c'est pour moi la métamorphose oubliée. Merci Anne-Marie, au revoir chers auditeurs. Écoutons cette danse de la Renaissance, car nous sommes bien sur une perspective nouvelle qui touche toute la vie, toutes les générations, d'où la notion de pacte que Anne-Marie a fort bien présentée, qui est fondamentale. J'espère que cette émission sera le début entre nous, chers auditeurs, et entre vous, et à tous ceux qui nous écoutent après sur le site www.art au pluriel, culture au pluriel, éducationsingulier.com relié, de débat entre vous. Ouvrons ce débat, ouvrons cette perspective qui est bien plus qu'une utopie, c'est une raison d'imaginer le 21e siècle. Bonsoir à tous avec cette danse de la Renaissance.